Mot-clé 12, nommer. Nommer permet de faire exister la chose et lui donne une valeur d'ancrage dans l'esprit, soit l'acquisition d'une compétence multisensorielle, donnant une valeur dimensionnelle et une compétence de corps. Mot-clé 12, donc nommer, séquence 1. Le nom comme unité de concept image du fonctionnement mental. Je vais d'abord examiner le nom comme une forme d'unité concept du fonctionnement mental. Et je vais le considérer sur ce que j'appellerais la tablature de l'esprit, comme une sorte d'unité des fonctions de l'esprit. Le nom, dans ce cas, est une sorte de double unité sur le plan conceptuel des concepts, dans ce qu'il semble à la fois embrasser et inclure. Il permet tout à la fois de voir, de percevoir et de concevoir dans son assemblage et tout en même temps, dans la lumière et la dimension de l'esprit. Il réalise donc une qualité élevée essentielle dans sa réalisation, dans ce qu'il permet, et en mode de nomination et de distinction mentale. C'est-à-dire là, on redescend au niveau des fonctions. Mais quand on dit quelque chose, et c'est cette matière de l'esprit que j'examine là pour le moment, quand on dit quelque chose, on ne peut pas dire le tout de la chose en train de se former dans son esprit. Le tout du tout de cette chose, ou la perspective de cette chose dans son esprit. Et comme chose, comme forme, dans ce canal. Et au-delà de la conception, qui implique de passer de ce canal de la vision implicite de pouvoir nommer ce qui vient ou ce qui passe dans l'esprit, et de faire passer dans le canal dynamique permettant la formulation de se dire et d'être dit. Voilà donc une complexité déjà examinée, mais je ne fais que l'évoquer là, elle est fort intéressante. C'est-à-dire nommer de la chose pour la réalité et pour et en rapport avec son esprit et les compétences de ce dernier. On peut appeler cela en quelque sorte le canal de l'énonciation, considéré dans la perspective de l'activité et de l'action de son esprit, au sens de pouvoir passer par les mots et une certaine forme de communication, y compris dans la possibilité de réaliser ce que son esprit contemple, observe, ou ce qui passe par lui. On ne peut donc pas tout nommer à la fois, dans la même conception du dire de l'assemblage, du temps, et de la chose aussi, au sens du dire et de pouvoir parler et expliciter. Et de son espace de temps et de la forme implicite qui s'y trouve en quelque sorte impliquée. On pourra considérer que l'expression à partir de là est encore autre chose et très très intéressante à considérer. J'y viendrai un petit peu par la suite en poursuivant le questionnement. Ce que nous appelons très sommairement communiquer donc, en raison et en rapport avec ce canal conçu en propre comme étant de la parole et de l'énonciation. Ce cri représente encore une perspective de parole et potentiellement de nomination, tant pour notre pensée que dans l'adresse à quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas tout, pas non plus tout contenir dans la forme de son examen de pensée. Et cette partie intéressante et complexe, je la signale ici sans la détailler plus. Je viens de mettre en perspective les conditions des données impliquant de percevoir et de concevoir. Et données qu'il faut considérer comme telles et qui ne peuvent pas être en premier lieu analytiques. Mais outre cela, pour rassembler la problématique, on ne peut pas dire le tout de la pensée, ni la chose qui se forme dans le canal, ou les canaux des pensées et de leur forme, ni le tout de la chose qui se présente dans les canaux d'attention, ou en rapport avec sa présence, à cette chose. Le tout ne peut se former comme tel, se formaliser dans ces canaux de perception, ce qui pose des questions sur ce que j'ai appelé le formatage, et qu'on peut appeler l'enveloppe de ces choses et images en jeu en tant qu'objets mentaux. Le tout du tout n'est pas possible dans le canal d'ajustement et des formations des objets mentaux, en conception ou en énonciation. Il faudrait pouvoir poursuivre les conséquences de cet impossible ou de ces impossibles. Une fois ce cadrage et recadrage, ce déplié de cadrage effectué, comme en marche d'escalier, progressivement redescendu, et comme un besoin radical de distance et de repli, je peux cadrer et dire ou poser, en définition focale, locale, quelque chose qui peut avoir de la valeur, qui soit à la fois de l'ordre du cadre et du nom. On peut encore dire une case à soi et de dire et ou de penser que le nom est un concept et une image, le tout ensemble. L'ensemble constituant un concept-image pour son esprit, sa considération, ses fonctionnements, ou encore un moyen, un instrument qui tient lieu et va tenir lieu de nom. On en arrive au fait que le nom est une nomination en soi dans l'esprit, pour l'esprit au sein de celui-ci et en quelque sorte de ses fonctions ou lui tenant lieu de fonction. On peut tirer pas mal de choses à mon avis de cela et on peut en conclure comme étape provisoire que le nom étant ce qu'il est et occupant cette ou ses fonctions au sein du modèle de fonctionnement de l'esprit qui constitue une forme qu'on peut qualifier de qualité en soi. Mais une forme de qualité particulière, pour autant qu'elle est capable d'assembler et d'inclure ou de contenir une quantité image ou d'image, une complexité d'image, ou un certain nombre d'images assemblées. Cela semble conditionner le fonctionnement mental, mais de plus, cette ou ces quantités images se doublent ou sont dotées de qualités sensorielles qui semblent complémentaires, qualités qui ont des intensités variables. Et il semble important de considérer ce couplage et de ne pas trop le désolidariser ou le découpler. On peut reprendre la question par le bout sensoriel et dire que, comme si on est devant un bloc de sensations, que la sensorialité représente à la fois et mêlée une qualité et une quantité qu'on ne peut démêler sur le moment. On peut remplacer, si on veut, le terme de quantité par intensité. On peut donc la considérer comme une quantité et qualité de deux espèces de types de nature différentes et qui, si on les considère comme étant assemblées, constituent une qualité sensorielle d'ensemble ayant en elle la valeur ou la propriété d'un nom. Ce qui permet de raccorder les qualités sensorielles et les quantités aux compétences à des fonctions de nom ou du type du nom dans leur ensemble, et de les considérer comme compétences de corps ou comme compétences mentales en tant que des fonctions et des unités de fonction. Et de plus à travailler et faire fonctionner. Pouvoir intuitionner, mettre en intuition leur correspondance. Et de plus, réaccorder cet ensemble, accordé, composé de nomination et de perception implicite, dans leurs implicites, à des fonctions de temps et de fixation du temps dans nos capacités corporelles et mentales. Et je pense qu'on peut pousser encore plus loin la modélisation et la correspondance entre sensorialité implicite, représentation ou nomination, représentation du nom dans l'esprit. Mot-clé 12 nommé, séquence 2. Considérer les kalyas comme unités sensorielles et équivalents de nom. Cela revient à considérer les sensations et plus du tout en apparence le fonctionnement mental. Et donc les fonctions de nom et de découpage, les fonctions du nom, telles qu'elles semblent se découper dans l'esprit, dans nos habitudes et nos observations de fonctions et de pensées. Je dirais comme nos habitudes donc, et d'observations aussi implicites et usuelles. Mais dans les fonctions de sensation, comme devant être considérées comme essentielles ou dominantes, on est là comme arrêté en suspension dans ces fonctions de fonctionnement de l'esprit, et tel que celui-ci conçoit ou pense devoir concevoir. Nous allons examiner un peu ce genre de panne et de suspension de type face à face, voire blocage ou opposition. Il est intéressant pour se faire une idée enrichie du fonctionnement mental et de différents points de vue, y compris en circonstances de souffrance corporelle ou de souffrance mentale, ou de type de souffrance qu'on peut qualifier de l'esprit connaissant, ou en mode d'exercice, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler l'esprit comme aveugle. On est là comme en présence de deux adversaires qui ne peuvent ou ne veulent pas se voir communiquer, collaborer, et dans ce face-à-face, corps-esprit, miroir, et face-à-face, corps-corps, et esprit et miroir, qu'il faut considérer. Le face-à-face est la conception de cet inter-espace, face-à-face, au miroir, est très intéressant à considérer, à prendre en compte dans son fonctionnement, sa compréhension, et notamment sur le plan de la conception du regard. Et d'autant que sur le plan sensoriel, pré-considéré comme tel, et abstraction est en fait des représentations mentales et des fonctions intellectuelles qui s'exercent ou des idées qu'on peut en avoir, et telles que ces idées peuvent s'exercer, où on se trouve en fait face à des unités ou des quantités de type sensoriel qui ont une densité, une importance et qu'il faut considérer comme telles. Elles ne sont pas analytiques et donc il faut les considérer en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et elles vont se transformer en quantité et en qualité image, mais comme sur un plan essentiellement sensoriel et qui demande à être exploré, perçu ou reçu. Si on considère maintenant les assemblages images et sensations considérées dans leur réalisation et forme de réalisation, on peut les appeler des kalyas, ou je dirais des kalyas comme message. Mais, de mon point de vue, il faut les considérer comme des équivalents de noms, c'est-à-dire des unités qu'il faut apprendre à discriminer pour les identifier, pour les qualifier, et pour la manière dont elles coopèrent à nos capacités de réalisation. Des unités qu'on ne peut qu'accueillir comme telles, et non pas en mode de forme analytique ou de forme de raisonnement. Ceux qui ont un odorat particulier en savent quelque chose, et notamment ce qu'on appelle des nez en matière de parfumerie, ou ceux dont l'audition leur donne l'oreille, dite absolue, dans leur bagage, dans leur forme de discrimination, sonore et mentale, implicite et inclus. L'analytique peut venir en second, ou comme message de connexion, comme développement, mais n'est pas ce qu'on pense ou connaît couramment dans les formes habituelles de l'exercice des fonctions intellectuelles, qui sont souvent poussées massivement, curseur, directement comme premier en avant. On va donc considérer là les messages sensoriels, premièrement pour eux-mêmes et comme de façon bornée et butée, comme des codes, des unités de fonction en elles-mêmes qui sont essentielles pour la réalisation de nos univers de perception et de sensation et des qualias, de ces qualias proches, corporels, de ces qualias en forme de connaissance. Et ce que ces réalisations touchent, mettent en mouvement, obligent à concevoir comme en parallèle et en accompagnement de nos fonctions mentales. Et on se met là dans cette perspective de perception-sensation, comme l'acceptant, comme fondamentale, comme première, comme devant lui laisser malgré tout la place, voire la laisser prédominer comme préalable. Les messages sensoriels apparaissent alors comme des messages à enjeu qualitatif et de perception, de qualité, d'intensité, de durée, sont encore comme porteurs de traits distinctifs et de type qualifiant, spécifique. Mais il faut aussi percevoir comment ces unités de fonction de perception des messages et qualité se branchent aussi sur notre cerveau, nos fonctions cérébrales dans l'ensemble, en mode de fonction de connaissance et en mode de réception et perception de messages. Et si vous voulez, on a des unités, on aura des unités de perception et de sensation qui, dans leur ensemble, comme des choses compactes, joueront comme des précurseurs, mais aussi comme des conditionnements, comme des conditionnants et comme vision et double ou doublure de notre fonctionnement mental, qui semble fonctionner comme des fonctions, lui, de nom et de nomination. Le mode de croisement entre messages sensoriels et messages de type image et nomination mentale ou intellectuelle, je ne peux que l'évoquer ici. Ces messages de nomination semblent fonctionner comme des images ou en code de message inversé. En mode perception, sensation, on semble prendre plus de temps. Il en faut comme beaucoup plus, mais on en incorpore beaucoup plus. Et notamment, on articule le fonctionnement du corps en mode de perception, en mode de sensation, et on l'inclut. Et de là, on peut articuler sans doute beaucoup plus et beaucoup mieux le fonctionnement psychique et l'inclure, ainsi que les fonctions de l'esprit, et je pense pouvoir y revenir. Mot-clé 12, nommé séquence 3. Les messages sensoriels comme appelant des messages dans l'esprit. Les messages sensoriels appellent des messages dans l'esprit. Je voudrais mettre cette formule en valeur, l'inverse n'est pas directement vrai. Elle n'est pas facile à commenter, cette formule. Elle veut dire que les messages qualifiant dans l'esprit, en mode de pensée, image, et image ou message, et le tout assemblé, appellent leur forme de traduction en mode de qualité et de quantité sensorielle, qui puissent être reçus ou éprouvés. Et ou que les messages nous parvenant par nos fonctions sensorielles, dont les fonctions corporelles de proximité, appellent des fonctions de message dans l'esprit, d'où elle pourrait provenir. C'est ce qui m'a fait m'attacher autant et explorer ces formes de messages, tels qu'ils me parvenaient en mode sensoriel et de qualité de nom, et comme des qualités de nom, voire de son, et comme à distance et de loin, et tels qu'en retour, mon esprit les décodait pour en prendre acte et les prendre en compte, et qu'il décodait en mode de perception et d'image, devançant le vocal et les réalisations intellectuelles ou les réalisations d'échanges sur le mode de l'explicatif et souvent sur le mode du raisonnement ou en termes de déduction, mais pour me faire observer et comme me mettant en forme de témoin et de comment les choses étaient ou se faisaient ou étaient en train de se faire, dont celles impliquées dans les réalisations exclusivement verbales ou excluant ou se déconnectant des autres formes de réalisation, et ce que je pouvais recoder autrement. C'est le message implicite des retraductions, des perceptions, des sensations dans l'esprit, en présence courte ou à distance ou éloignée, que j'ai alors pu qualifier, requalifier, examiner comme présence ou représentation potentielle du nom. Ce qui renvoie à une qualification plus large en mode de représentation, idée et langage, dans les fonctions et fonctionnements de l'esprit. On peut là considérer cette qualité et cette compétence dans ses doubles fonctions, comme représentant la qualité ou la compétence qui nous est apportée de nommer, considérer les choses, chose par chose, dans l'esprit. Et de là, en sens comme inversé, ou comme inverse, considérer cela du point de vue du sensoriel et des sensations en mode quantité et qualité, c'est-à-dire essentiellement selon les messages et les effets de réception intervenant dans la mouvance des sensations et du moment. Bouclé 12, nommé séquence 4. Que voulez-vous dire, monsieur, par un nom, ou que vous voulez dire par nom ou nommé? Voilà, je pourrais reprendre la question sous un mode d'humour, humoristique, par le « que voulez-vous dire ?» par et c'est quelque chose d'intéressant à comprendre et à considérer et à impliquer sur le mode de l'humour et de l'implicitation du vouloir dire, et à prendre en compte, et comme processus et systématique et mode d'esprit, d'état d'esprit, de considération et de réception. On n'est pas très loin de l'humour et de la nécessité, dirais-je, du mot d'esprit, qu'il est très important de savoir et de s'apprendre à pratiquer. Qui se formule et se met en scène, là, est un modèle d'esprit qui est énonciateur comme implicite et comme servant, se servant du verbal dans sa dimension d'esprit, dans sa forme mentale. Je m'y suis tôt intéressé. Dans sa forme de traduction, sa forme d'inscription, sa forme de traduction écrite, objectivée, quand j'ai commencé mon premier cheminaire, pour faire valoir la notion de chemin en public. Je pense que c'était en 1986, je peux retrouver le plus précisément la date, mais j'avais intitulé cet exercice public « La partie droite », en divisant systématiquement le tableau en deux parties, et donc aussi le fonctionnement dans les représentations d'esprit comme en deux parties modèles. Et donc, je ne dirais pas projective, mais inverse, intégratrice. À savoir, à droite, considérer que ce qu'on dit officiellement, en pensée, en public, est comme s'autorisant d'un penseur, de quelqu'un de très autorisé, etc. On le met donc à gauche et se mettre à formuler pourquoi on le dit, on le soutient et on le pense soi, selon ce qu'on est amené à penser, à soutenir, et ce qu'on dit comme pouvant essayer de le soutenir en public, et donc comme des autres étant présents, et pas seulement l'énoncer, le soutenir comme credo intellectuel et comme capacité de donner du concept de façon prolongée, et de façon plus ou moins fabriquée, ficelée, et sous des formes d'alignement de concepts, et pour là faire autorité aux représentations de soi et de sa personne. Le besoin de faire autorité et de se recommander de quelqu'un ou de quelque chose est à examiner comme en soi, ce qui demande d'examiner aussi les fonctions et les pertinences des références. Et cela peut et doit aussi faire réfléchir sur les formes de citation. Je n'ai pas cessé ensuite de modéliser sur les bases de ce en quoi je pouvais me rétro-verser et ce que je soutenais de mes propres élaborations et de mes sensations de pensée. La question m'a été posée pour mon blog et ma surprise, d'autant que je ne l'avais pas choisi, moi, pour m'expliquer ou expliquer ce que j'appelais le nom ou nommé. Et puis ça m'a intéressé. Qu'est-ce que je voulais dire par le nom? Quelle importance j'attachais au nom et au fait de nommer? Et pour cela, pour y répondre, il fallait que je produise une succession de messages. Je ne pouvais pas seulement donner un, deux, trois, quatre mots-clés, quelques qualificatifs, et puis ça suffit. Je me suis mis, en fait, comme un artisan à répondre, à travailler, à confectionner cette question qui demande de l'énonciation, et comme faisant passer des énoncés devant soi, et en question de sens, cette communication, et comme étiquette mentale, comme je le dis pour moi, pour mon esprit, et me formaliser et travailler de suite, sans notes, et sans aller chercher des références que j'ai par ailleurs y compris, comme souvenirs, évocations, ou en aimant travailler et étudier, ou encore comme référence en mode de publication ou de possible citation, comme j'avais commencé à le faire en public depuis 1986, lisant, préparant et travaillant sur le moment, donc, et m'exposant, exposant, et laissant comme tout tomber, et en devenant l'artisan, pour ainsi dire, de mon esprit, l'instrument de moi et de mon corps, et devant me contenter de la satisfaction ou insatisfaction sans tricher ou escamotage. Ce que, avec l'épaisseur du temps travaillé, m'a permis d'emmagasiner pas mal de données, pas mal de sensations, pas mal d'expériences, et donc aussi de travailler dans la compression et le compact, l'immédiateté de la présence, des données sensibles, et dans et au travers de ce tunnel-là. Et en espace de distance, de perception, vision, énonciation, et énonciation de l'ensemble, au-delà de la vision ou de la perception interne propre. Qu'est-ce qu'on peut dire du non maintenant, dans ma ligne de pensée, de vouloir dire, de la pensée implicite, de l'usage de cette notion, comme d'un trait, comme d'un crayon, comme d'un instrument équipant mon corps, ma main, mon cerveau, mon esprit, et pour me permettre de recevoir en même temps, de décoder et d'exprimer tout à la fois. Autant le définir comme une grande image mentale et verbale, tout à la fois, dans la considération et la mire et distance de quoi ? De quoi je vais rentrer, mais pas maintenant. Mais là, en fait, rentrer dans cette dimension, c'est comme parler avec quelqu'un qui n'est pas là. Et je m'arrêterai là sur cette intéressante question et ce qu'elle permet de concevoir.